Vous êtes sur Négatif et je suis Ferdinand Flamme, co-auteur du film Municipal.
Et je suis Thomas Polo, réalisateur du film Municipal.
Selon l'INSEE, en 2015, 6518 personnes habitaient la ville de Revin. En 2019, il n'y avait plus que 5836 âmes dans cette bourgade des Ardennes. Mais un événement va bouleverser la vie paisible des habitants revinois. Laurent Papeau et une équipe de film débarquent dans la ville alors que la campagne pour l'hôtel de ville démarre. Bonjour Ferdinand Flamme et Thomas Polo.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif consacré à un film documentaire. Si nous pouvions le qualifier ainsi, nous en reparlerons, à l'occasion du Festival international du film politique de Carcassonne, où vous présentez votre premier long métrage intitulé Municipal. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui accompagné par Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Je le disais donc, il s'agit en tout cas sur la forme d'un film documentaire. Thomas Polo, vous êtes le réalisateur de ce film, mais deux personnes vous ont accompagné à l'écriture de son scénario, Ferdinand Flamme, qui est donc avec nous, et Milan Alfonsi. Vous jouez, en tout cas vous êtes présent devant la caméra dans ce film. Quant à Laurent Papeau, il est acteur de profession, mais il est surtout le protagoniste principal de cette histoire. Laurent Papeau a été engagé par vous en sa qualité d'acteur pour se présenter à la magistrature de la ville, sans programme, quasiment sans équipe. Il est un anonyme parachuté sur le terrain sinueux d'une campagne politique municipale. Et cette aventure est filmée par Thomas Polo, dans un registre particulier, à la lisière de la fiction, du documentaire et sûrement de la performance. Une première question pour vous, puisque nous sommes au Festival du film politique. Qu'est-ce que le mot politique évoque pour vous ?
Je peux répondre, peut-être pas en termes philosophiques, mais par contre, en ce qui concerne le film, et le rattacher plutôt à d'où est-ce que cette envie, d'où l'envie est partie. Thomas, Milan et moi, on est trois amis de lycée. Thomas et moi, on était au même lycée à Sophie Germain, à Paris. On a fait la même option cinéma, qui était une très bonne option cinéma facultative. Et du coup, en tant qu'amis, on a participé au blocage de lycée ensemble, on a fait Nuit debout ensemble, on a fait le mouvement contre la loi travail ensemble, et on a passé beaucoup beaucoup de soirées au bar ou ailleurs à refaire le monde et à parler politique. Donc je pense que c'est avant tout à travers ce prisme-là, et je pense qu'il faut comprendre ça pour comprendre l'histoire de ce film, jusqu'au moment où Thomas arrive avec l'idée de faire un documentaire sur les élections municipales. Et il a cette idée un peu saugrenue, farfelue, de se dire on va prendre un acteur pour justement un peu échapper au grand carcan des films qui sont par ailleurs souvent super politiques, qui serait juste d'y aller tout seul avec sa caméra et puis de suivre un candidat qui existe déjà. Il a cette idée un peu saugrenue d'embaucher un acteur. Donc là, pour répondre à la définition du mot politique, je pense que d'un coup pour nous ça devient quelque chose de très concret, c'est-à-dire comment est-ce qu'on participe à une campagne municipale. Donc pour ça, ils s'entourent de Milan, qui à l'époque était encore professeur de philosophie, et de moi qui viens plutôt du théâtre et de la mise en scène. Et donc je pense que c'est aussi la rencontre entre ces trois médiums-là qui crée quelque chose d'un peu politique, qui est à part ça un mot quand même assez vaste, potentiellement un peu vague. Mais donc pour nous, voilà, on le raccroche à un truc très concret qui est des éléments auxquels on a participé, des envies de... Et puis en fait, je pense un peu des envies pour nous de définir et puis de savoir ce que ça veut dire, en fait, une campagne municipale qui est censée être un des grands totems de la politique en France.
L'envie, justement, comme disait Ferdinand, de passer d'une envie documentaire à la base, relativement classique, disons, qui aurait été lors du cinéma direct ou quelque chose comme ça, de passer de cette envie-là à aller propulser ce comédien, était quand même aussi pour se frotter et frotter plein de choses de nos discussions politiques, de nos positionnements politiques et de l'attirance qu'on peut avoir pour certaines théories qu'on avait envie de mettre à l'épreuve, quoi. Et d'avoir un effet direct sur le territoire dans lequel ça allait se passer, quoi. Et je pense que c'était vraiment un moment aussi, je sais pas si aujourd'hui on aurait la... Enfin, je me pose un peu la question, mais peut-être qu'on s'en fout un peu de cette question de si aujourd'hui on a encore envie de faire exactement le même film. Mais je pense que c'était un moment où on avait une forme d'envie un peu plus urgente de confronter nos idées à, à des réalités territoriales, quoi.
Qu'est-ce que le cinéma politique et un film politique pour vous ?
Je pense que le cinéma politique, on peut le définir par plein de choses différentes. Je pense qu'ils ont tous une... on peut faire une lecture politique de n'importe quel film. Après, son positionnement politique est à déterminer. Ça dépend de la compréhension du point de vue que le réalisateur a de son œuvre. Donc ça peut être très variable. Il y a beaucoup de films qui sont extrêmement politiques, mais qui sont faits par des auteurs qui n'ont pas nécessairement la conscience d'en faire un, l'inverse aussi.
Et vous aviez cette conscience, justement ?
Oui, non, on ne se cachait pas derrière notre petit doigt. Ouais. Enfin, on savait de quoi on avait envie de parler, et ça nous intéresse beaucoup. Enfin, la politique nous intéresse beaucoup. Enfin,
oui, puis moi, je le relie aussi à des contraintes de production. Et en ça, nous, on avait quand même hyper conscience de ce qu'on faisait dès le début. C'est-à-dire de dire qu'on faisait ce film à trois, enfin... Et puis, enfin, je sais pas, mais je pense que ça sent tout au long du film. Enfin, c'est aussi pour ça que Mylène et moi, on apparaît en tant que conseiller de campagne. Enfin, c'était une manière de... Je pense que tout dans ce film est un peu politique, mais en même temps est complètement à l'arrache. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'horizontalité totale et complète à... Je définis pas la politique par le mot horizontal, mais... Mais en tout cas, je pense que nous, dans la manière de le faire, c'était assez important. Mais ça nous a rendu un peu dingue, hein, de passer une campagne entière à être horizontale sur l'idéologie et la manière de faire le film. C'est-à-dire, lui, il réalise, il est au cadre en même temps. Nous, on écrit, mais en même temps, on doit jouer, mais en même temps, on doit faire la popote, mais en même temps, on n'a plus de fric pour aller faire les courses. Mais en même temps, il y a Laurent qui a envie de faire passer ses idées quand même. Et puis nous, on veut tous un peu dire « Ah, mais ça, moi, je pense que c'est important. Oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais si. » Et ça, c'était assez passionnant, je pense.
Oui, puis il y a un truc d'effacement de tout notre blabla et toute notre popote d'entre nous, de discussion, de est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce que c'est juste, des questionnements éthiques, moraux, etc., qu'on voulait pas faire apparaître dans le film, ou peu. Et aussi, il y a eu cette envie de simplifier et de mettre de côté une très grande partie des thématiques politiques qui nous intéressaient, enfin de certains mouvements idéologiques qui nous plaisent et qu'à la base, on pensait un peu mettre en application là-bas ou essayer de le mettre en application à travers la campagne de Laurent. Et en fait, tout ça faisait partie de notre quotidien, de nos discussions, mais on a décidé au tournage puis au montage de mettre vraiment ça de côté pour que le discours de Laurent soit le plus simple possible et que son discours soit justement une sorte de vide, quoi. Une sorte d'absence de proposition programmatique, mais juste une proposition d'action, quoi, qui est assez proche d'une action militante, de juste vider un endroit, quoi.
Est-ce que vous considérez avoir tourné un authentique documentaire ?
Sur certains endroits, oui. Bon, après, l'authenticité du documentaire, je sais pas bien ce que c'est, mais disons que si on réfléchit le documentaire plus comme les moyens qu'on met en œuvre, toute l'économie qu'il y a autour de la fabrication... Enfin, je pense que la définition du documentaire, au final, s'il y en a une, est plus économique que formelle. Et je pense que ça joue davantage sur des logiques qui sont propres à des industries qui sont légèrement différentes, qui sont celles du documentaire et celles du cinéma de fiction. Même s'il y a des contre-exemples partout, hein, mais... Et dans ce sens-là, on était plus dans l'improvisation, la bidouille du documentaire, un rapport documentaire à la caméra de la plupart des protagonistes. Et en même temps, il y avait Laurent qui était quand même en permanence le représentant de la fiction, donc qui est un personnage symbolique pour tout le monde, à la fois pour nous, pour
qui lui, est présenté dans le film comme un acteur.
C'est ça.
Aux gens.
Ouais.
Et que vous avez réellement engagé comme un acteur.
C'est ça. Et donc il a sa double casquette. Il est acteur, mais il est aussi représentant de la fiction, mais de par sa fonction. Pas de part une sorte de personnage. Enfin, c'est Laurent Papot joue Laurent Papot dans le film, avec une part de jeu importante quand même, mais c'est Laurent Papot qui joue son propre rôle, quoi. On n'a pas créé un personnage, on s'est pas dit qu'on allait le faire ressembler à telle ou telle figure politique existante. Ça a pu nous traverser l'esprit, on s'est posé la question, sa transformation, est-ce qu'on ne pouvait pas jouer davantage sur ces choses-là ? À un moment, on voulait faire des sortes de mises en scène avec une sorte de Laurent Papot en sous-commandant Marcos dans la ville de Refin, et on ne l'a pas fait.
Donc créer un personnage de fiction, en fait, ça, vous ne l'avez pas fait ?
Si, de fait aussi, parce que... Mais, Mais en fait, le personnage de fiction de Laurent, il existe parce que on n'entend jamais parler de sa vie en dehors de la temporalité du film. Donc je pense que sa fiction, en fait, la fiction que lui a fabriquée et qu'on a fabriquée tous ensemble, c'est qu'il ait une existence propre à la durée de Municipal, qui parle pas de sa vie familiale, de son passif. Il y a des moments, ça ressort un tout petit peu, mais globalement, on avait envie que son existence soit vraiment très, très ancrée. Donc je pense que la fiction, du coup, il la fabrique à travers Revin. Du coup, les seuls référents qu'il a le droit d'avoir dans ses discussions, c'est des référents liés à son expérience sur place, quoi.
Oui, et puis ça, la liberté que ça lui a procuré, je pense, nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est que tous les protagonistes du film ont très vite compris, et en fait, les gens qu'on voit dans le film, les acteurs, enfin, qui sont pas des acteurs d'ailleurs, enfin, mais les Revinois qu'on voit dans le film sont des Revinois qui ont compris ça, qui ont compris qu'ils pouvaient nous utiliser, enfin, que c'était une espèce de consentement mutuel, que on leur proposait cet endroit du film, mais qui était un endroit... Ça, je pense, ça pourrait rejoindre un peu les premières questions sur qu'est-ce que... Enfin, une tentative de définition du mot politique, mais c'est-à-dire eux, ils pouvaient venir, et puis, devant notre caméra, ils sont qui... Ils avaient envie d'être devant nous. Et ils nous le disaient, hein. Enfin, la plupart nous le disaient. Ils nous disaient, moi, je profite de vous autant que... Enfin, et quelles que soient les raisons, d'ailleurs, hein, que ce soit parce que... Pour tromper l'ennui, pour faire passer un message, pour transmettre une colère. Et ça, c'était... Nous, ça, je pense qu'on était assez contents et assez fiers de réussir à provoquer ça.
Et est-ce qu'avec eux, vous disiez que vous faisiez un documentaire sur la campagne de Laurent, ou c'était plus vague?
Bah, on expliquait vraiment de la même manière qu'on pourrait vous l'expliquer là, quoi. Enfin, on était parfaitement transparents sur nos intentions. Donc ça posait des questions, enfin, nécessairement, parce que c'est pas extrêmement clair. Enfin, on sait que les frontières, enfin, même pour nous, c'est, on le définit difficilement. On n'a pas une sorte de définition parfaite de la nature de notre film. Cependant, il comprenait bien le pourquoi de cette sorte d'hybridité, de cette nature étrange. Il comprenait très bien pourquoi, dans le contexte électoral qui plus est. Est-ce que ça pouvait... On nous reparlait quand même très souvent d'exemples qui ont existé. Enfin, notre démarche, elle s'inscrit quand même dans une sorte d'histoire de démarche, même si pour nous, ce n'est pas nécessairement des références hyper importantes dans l'écriture, mais il y a toute une histoire quand même de personnages fictifs qui se présentent aux élections municipales, ou de comédiens, ou de... Il y en a plein qui ont... Les candidatures loufoques, il y a des bouquins là-dessus, il y a plein de trucs... Et du coup, ça résonne aussi en eux. Coluche était très, très souvent cité par beaucoup de Revinois, avec pas mal de nostalgie de l'existence de Coluche et de son impact politique. Donc oui, ça, les gens comprenaient, même si on galère parfois à définir exactement ce qu'on fait, les discussions permettaient de voir nos intentions, en fait. Je pense que nos intentions étaient relativement claires.
Et vous présentez seulement pour les besoins du film, ou si jamais vous êtes élu, vous allez vous rester jusqu'au bout?
Une chose est sûre, c'est que si je suis élu, je disparais de toute façon.
D'accord.
Alors à partir de là, il y a une autre organisation qui se fait, et justement, comment s'organiser? Laisser la place aux habitants, vider le siège du maire.
On est un peu pour chambouler les choses, quoi.
Je sais pas, mais pour comprendre des choses aussi. Il m'a posé la bonne question. Si je suis élu, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, mais t'as bien répondu.
Non, non, mais j'ai bien répondu, mais c'était pas... Ça va?
Justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'occulter tous les gens que vous avez rencontrés, parce que j'imagine qu'il y en a eu, qui ont pas compris votre démarche, qui l'ont rejeté? On le voit très très brièvement dans le film, mais c'est quand même... Vous les avez quand même occultés? Est-ce qu'il y a une raison en particulier?
Bah, il y a des personnes qui ont pas envie de participer. Nous, on le disait dès le début, hein, comme vu qu'on était quand même dans l'espace public à filmer des moments de discussion entre des personnes qui étaient là, on expliquait. Enfin, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées, quelle que soit la nature du projet. Donc, vu qu'on était beaucoup dans des endroits où il y avait du monde et c'était beaucoup d'explications, bon, rassurer les personnes, dites-nous que vous avez pas envie d'être filmé, on vous filmera pas, il y a aucun souci, ou les convaincre de la nécessité qu'ils y apparaissent. Après, les rejets plus francs et directs du principe du film empêchent souvent de filmer tout court. Donc, Donc c'était à la fois des raisons très pratico-pratiques que je suis en train de décrire qui empêchaient certaines personnes d'apparaître. Et je pense aussi à un choix de notre part de se concentrer plutôt sur la sauce qui prend et les affinités qui se créent, plutôt que sur montrer la conflictivité, quoi. Mais après, c'est tout un travail. Enfin, montrer le conflit est tout un autre problème. Mais c'est vrai que nous, ça nous mettait aussi souvent dans des situations où j'avais une fin qui était bien, j'ai complètement oublié.
Ouais, moi, je pouvais rajouter.
On y reviendra.
Cette chose que... Enfin, il y a aussi, ouais, on s'est concentré sur les critiques. Dans la scène où il y a Marc qui vient, qui reproche ouvertement à la caméra d'être en train de filmer notre local et de pas être en train de filmer un mouvement social qui avait lieu dans un hôpital pas loin. Pour nous, cette scène-là vaut mille fois plus que des gens qui ont pas eu envie. Il y a une des candidates, par exemple, candidate de gauche, qui a refusé très poliment de participer au film. Un moment, à la fin du tournage, elle est venue au local, où je me souviens plus où, et on l'a filmé.
Chez elle.
Ouais, c'était chez elle, et puis on l'a filmé en lui posant des questions de expliquez-nous pourquoi vous avez pas voulu.
En fait, ouais,
en fait, c'était pas très intéressant. Enfin, il y a aussi ce truc-là, c'est à un moment, tu fais un film, il faut que ce soit intéressant. Quoi. Et puis, il y a des. En fait, le pourquoi les gens veulent pas faire les choses dans le cadre d'un film comme ça, finalement, c'est pas très intéressant. Je pense que ça apparaît dans le film. Parce que les gens qui participent se posent des questions à vue et puis donc du coup rentrent dans notre recherche à vue qui est de toute façon une recherche, comme le disait Thomas, qui paye une recherche hyper sûre d'elle non plus. Et voilà.
Sur le plan de la forme, il y a une histoire aussi qui existe, celle du faux documentaire ou du documenteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi en amont, cette question du faux documentaire ou du documenteur ?
Il y a plein de films dans ce genre-là, enfin plein, j'en ai pas eu tant que ça dans ce genre-là, mais ça m'amuse souvent, enfin ça m'amuse comme outil en fait. Mais en fait, davantage que des documentaires, mais peut-être qu'on pourrait les mettre dans ce cadre-là, le film de Kramer ou Twan a un peu de ça quelque part. Mais c'était plus ça qui m'intéressait, quoi. L'outil du comédien dans du documentaire.
Est-ce que le documentaire qui a un objet cinématographique particulier, c'est une forme que vous avez cherché à travailler et à dépasser?
Je pense pas, parce que je pense pas qu'on se soit vraiment inscrit dans... Enfin, on n'a pas tant réfléchi à d'autres films qui soient... Enfin, on en a vu quelques-uns, quoi, mais enfin, les deux films quand même qu'on citait le plus souvent et qui nous servaient le plus à travailler, c'était certainement Route One et Pater de Cavalier.
Et la figure de l'idiot.
Figure de l'idiot, on s'en est... Ouais, oui, c'est vrai. Et peut-être les films de Gomesh, enfin Les Mille et Une Nuits, qui sont encore dans un genre très différent, qui ne ressemble pas du tout à notre film, mais c'était plus ces références-là qu'on utilisait, qui peuvent avoir des filiations avec les mockumentaries ou documentaires. Mais on n'a pas fouiné profondément dans toute l'histoire du documentaire. Non.
Et en même temps, ce qui est particulier dans votre dispositif, le documentaire, donc, c'est quelque chose qui a un trompe-l'œil et qui va à un moment... montrer qu'il est un trompe-l'œil, et donc c'est comme un trompe-l'œil qui est apprécié quand on sait que c'est un trompe-l'œil, et en même temps vous révélez à la fois aux personnes qui sont sur le terrain que vous filmez et aux spectateurs directement, en transparence, votre dispositif.
Ouais, bah je pense que justement, enfin ta question résume parfaitement le pourquoi la filiation n'existe pas vraiment, c'est que justement on avait cette nécessité politique pour le coup de d'être parfaitement transparent avec les Revinois et les spectateurs de la nature du personnage de Laurent, quoi.
Et donc vous avez fait un travail de scénario à trois. Comment est-ce qu'on procède pour écrire un personnage en constante évolution ?
On peut revenir sur les questions sur le scénario qui généralement se termine toutes par on a jeté le scénario au premier jour de tournage parce qu'on s'est bien rendu compte que tout ce qu'on avait pu imaginer pourrait jamais rattraper la réalité et qu'on passerait notre temps à courir après des scènes un peu fantasmées de fiction et qu'en fait c'était juste pas, enfin qui aurait pu être hyper intéressante mais qui était juste pas l'endroit qu'on voulait filmer. Il y a peut-être moi deux choses que je voulais évoquer. Il y a comment on a écrit, donc c'est-à-dire que nous on s'est rendu, le tournage a duré 11 mois mais on n'a pas passé 11 mois sur place. On a passé donc Thomas et Mylène ont fait des repérages en juillet 2019 pendant 2 semaines.
On avait fait dans l'année avant aussi.
Ouais, on avait fait, mais moi je reprends un peu là, ouais. Parce que c'est là où oui. Ça s'est vraiment lancé. Ouais, après, on est retourné 2 semaines en août. Ne me vexe pas, Thomas. Non, mais on est retourné 2 semaines en août, puis 1 semaine par mois jusqu'en février, où en février, on est arrivé pour les 2 mois de campagne, donc la pré-campagne de février-mars. On a été arrêté par le Covid, on est retourné en juin.
Après le premier tour.
Ouais. Et donc la première chose, c'est que en fait, ça s'est fait un peu pour des raisons économiques, et puis parce qu'à un moment, on s'est posé la question hein, d'aller y habiter, mais on a des vies à Paris, etc. Enfin, puis on avait des dossiers à rendre, donc on n'y est pas allé, et du coup c'était hyper intéressant parce que plus on y allait, plus mieux on connaissait le terrain, plus ça devenait réel et concret pour nous, plus la campagne avançait aussi, donc plus nous, notre écriture se rapprochait du réel, si bien qu'à un moment on s'est rendu compte que ce qu'on écrivait en fiction parfois arrivait dans la réalité. Ça, c'était hyper grisant. Et bon, mais bon, après, pour tout ce qui est les grosses scènes de fiction, on les a abandonnées. Et donc, la deuxième réponse à cette question, mais donc je pense qu'on a pris conscience qu'une fois le film fini, c'est qu'une campagne, c'est un scénario en France. C'est une pré-campagne, un premier tour, un deuxième tour, une recherche de signatures pour pouvoir constituer une liste, un local de campagne, des tracts, des affiches. Et bon, c'est quand même un scénario hyper bien ficelé, dans lequel, si on arrive à s'insérer, on n'a qu'à le suivre. Donc après, nous, notre travail, c'était d'être capable de sentir les situations, de sentir les endroits où il fallait être pour attraper ce qui avait de plus intéressant à attraper. C'est d'arriver à nouer des liens de confiance avec les habitants sur place, y compris les gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous, pour pouvoir donner des scènes intéressantes. Il y avait tout un jeu de aussi comment Thomas, Laurent et Juliette, la preneuse de son, arrivaient à trouver, ça Thomas pourra en parler mieux que moi, mais je me souviens que Thomas n'arrêtait pas de dire que c'était dingue que Laurent arrivait de mieux en mieux à sentir le cadre, quoi, aussi, et qu'il y avait vraiment un truc, ça tu pourras lui en parler, mais...
Oui, enfin, il y avait à la fois, enfin, il y avait vraiment une écriture de direct qui était vachement aidée par le fait qu'on ait beaucoup écrit avant, et qu'on ait du coup une sorte de base commune, que ce soit tous les trois et Laurent, et ça nous permettait de très bien s'articuler ensuite au moment du... Enfin, très bien. On s'est foiré plein de fois, on dit très bien maintenant, on est des gros menteurs. Mais de mieux pouvoir se communiquer entre nous pour pouvoir écrire en direct. Et donc on avait une sorte de... Enfin, au final, on avait une sorte de fonctionnement en trois triangles, quoi. Il y avait Juliette, Laurent et moi. Donc on avait notre petite tambouille, donc Juliette qui est l'ingé son du film. Il y avait Ferdinand, Milan et moi, qui étions un autre trio, où on pouvait se dire « Ah bah là, peut-être qu'on est en train de déconner. » Moi, vu que j'étais au cadre, on essayait de se communiquer. Là, on fait n'importe quoi, et essayons de faire ça. Ou est-ce que tu peux dire à telle personne de venir qu'on a vu passer dans la rue? Donc, les faire orchestrer un peu tous ces trucs-là dans le direct. Et ensuite, le trio davantage de jeu, qui était donc devant la caméra, qui était celui de Laurent, Milan et Ferdinand qui avaient leur autonomie aussi face au cadre, quoi.
Et qui apparaît beaucoup moins dans la version finale, et tant mieux, mais parce que les... Je me souviens plus exactement, les 50-60 premières heures de rush, c'était parce que aussi nous au début, c'est tout un truc de débarquer avec une caméra dans une ville où on connaît pas, de réussir à expliquer le projet correctement, une ville qui en plus n'était pas indemne de son rapport aux médias, et quand on débarque, comme nous on était une toute petite équipe, ils nous prenaient souvent pour BFM ou pour France 3. France 3, ça allait. BFM avait sorti une sorte de petit reportage sur la ville assez infâme, qui la présentait comme une ville de chômeurs où les baraques étaient à vendre pour 1000 euros. Donc, ce qui avait énormément déprimé les habitants, et puis ils les avaient mis très en colère. Ils avaient fait une réponse vidéo aussi, bref.
Ils vous prenaient pour des journalistes?
Au début, oui, souvent, c'est... Ouais. Et bon, il y en a même un qui a pensé jusqu'à la fin qu'on faisait un reportage sur le parapente. Donc
on le salue bien fort.
Mais on le salue bien
oui, donc
fort.
On voit très bien ce plan dans le film en parapente.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, tu rigoles, mais on l'a fait. notre grand fantasme, ça a été, on a appris qu'il y avait des survols de la ville en avion. Et on n'a pas pu le faire pour des raisons de production, finalement.
Ça coûtait pas si cher. Et quand j'en reparlais, ça coûtait pas cher.
Ah, pourquoi on l'a pas fait?
Ben, je sais pas, parce que quand j'en reparlais, même à Rémi Langlade, le monteur, lui avait très envie qu'on aille faire ce retake-là. Et s'il y a un retake à faire, c'est celui-là, le survol de la vallée de la Meuse. Et on l'a pas fait.
Quand on écrit, je ne sais pas si on peut encore appeler ça écrire, mais quand en tout cas on développe son personnage au jour le jour, est-ce qu'on n'a pas peur qu'à un moment donné, il nous échappe complètement, quelque chose qui se passe mal, qu'à un moment donné, bah, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, il y a une altercation, et d'un coup, bah, ça chamboule tout. Comment est-ce que vous avez eu des conflits, comment vous les avez gérés? Enfin voilà, comment vous avez géré un peu les problèmes autour?
Le fait qu'il nous échappe, ça faisait partie inhérente de nos envies de film, donc sur l'aspect plus performatif sur Laurent, donc quels effets ce film a sur le candidat. Donc ça, c'est des choses qu'on avait envie de voir apparaître, sans avoir envie de les provoquer pour autant, parce qu'on n'est pas, on voulait pas rentrer dans cette perversion là non plus, quoi. Mais on sait que les conflits, que des choses allaient se passer de toute façon, étant donné qu'on le contexte allait de toute façon le faire un peu. Après, la gestion des conflits avec, c'est comme ce qu'on vous disait au début, ça dépend vraiment de la nature des conflits, quoi. Il y en a certains qui sont filmables, qui peuvent rentrer dans un film, et d'autres qui n'ont pas leur place. En tout cas, nous, on a fait le choix de pas les mettre en scène, quoi. Parce que ça serait cristallisé des accès éventuellement de violence, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, hein, je vous rassure, c'est vraiment des épiphénomènes qui se sont passés. Mais c'est les cristalliser alors que nous, on est conscient qu'on vient à un endroit et qu'on vient aussi en perturbateur, quoi, et qu'on est extérieur. Donc on ne peut pas... ça serait éthiquement quand même assez questionnable, quoi, d'arriver, de générer un conflit, de le figurer et de repartir. Je pense qu'on n'avait pas la... On n'était pas à la place pour pouvoir montrer ça. Et puis c'est...
Ouais. Puis... Faut dire ce qui est, en choisissant Laurent, on a aussi choisi que ça puisse, enfin, de jouer avec la potentialité que ça puisse nous échapper à tout moment. Ouais. Mais c'est ça qui fait le charme. Enfin, Laurent, il est, je sais pas, il a un peu espèce de truc d'improvisation, de s'emparer de son personnage comme on a fait un casting, hein, pour le choisir. Et puis bon, bah lui, il est apparu comme une évidence assez rapidement. Et puis dans le film, parfois, ça nous rendait complètement dingue, parce qu'on se disait, mais il fait pas du tout ce qu'on lui a demandé de faire, puis en plus, comme nous, on lui donnait pas tant de billes que ça sur le discours politique, enfin, et qu'on écrivait en parallèle, si tu veux, lui, au début, il était un peu lâché,
Il n'avait jamais fait de campagne municipale.
Bah non, et puis nous non plus, et puis même nous trois, en fait, je pense qu'on a mis du temps, enfin, moi, je sais qu'à un moment, je me disais, mais il faut un programme, il faut pouvoir dire des choses aux gens, Thomas et Milan tenaient le cap en disant, bah non, il faut pas du tout, Laurent était un peu... au début avec moi, parce qu'on avait du mal à comprendre, donc du coup Laurent se retrouvait face à des gens qui essayaient il a des réflexes, quoi, donc il parle un peu de son programme, mais pas trop non plus, mais ça c'était en fait assez passionnant, c'est ce qui fait que après, ça rentre les gens, et c'est ce qui fait que ça...
Mais il nous bernait aussi assez souvent sur ces questions-là, enfin je sais pas s'il nous bernait, mais disons qu'il il aime beaucoup créer des scènes, donc même sur des questions tout à fait banales de la vie quotidienne, il crée constamment, il joue beaucoup, quoi. Et il joue bien, donc ça se voit pas. Donc on se faisait quand même souvent aussi... on se faisait aussi prendre à ça. C'est les doutes... il pouvait vraiment mettre en scène ses doutes sans qu'on s'en aperçoive, parce que c'est aussi des questions qui le traversaient réellement, avec quoi je me dépatouille son programme, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments, ses doutes étaient aussi là pour la caméra, quoi. C'est des questions qui se posaient souvent pour créer le moment où il se pose la question, quoi.
En gros, se pose aujourd'hui une question fondamentale qui est... Est-ce que cette liste, on l'a fait véritablement? Est-ce qu'on la présente véritablement? On est prêt à assumer tout ce qui peut arriver, etc. Mais par contre, on ne veut pas, absolument pas, prendre cette décision nous-mêmes. Et puis en fonction de cette réponse-là, qu'est-ce qu'on engage derrière, quoi?
Je pense qu'il vaut mieux qu'on soit, nous, dans le fictif, ce qui ne veut pas dire que ça ne fera pas peut-être bouger des choses. Parce que si on est dans le réel... La confusion dans la tête de beaucoup de personnes, elle risque d'être grande.
La fiction, quelquefois, fait plus réfléchir parce qu'il y a une distanciation qu'il n'y a pas quand on a le nez dans le... C'est pour ça que moi, je serais plus pour la fiction, mais bon...
Je me dis que c'est si on part dans le fictif qu'on va créer de la confusion dans la tête des gens. Si nous, on se dit qu'on peut y aller réellement et qu'on assure aux gens... qu'on n'est pas là juste pour mettre la zizanie ou quoi que ce soit, et qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses et d'y aller concrètement, c'est là où les gens vont nous suivre. Enfin, on a plus de chances, je pense, de faire suivre les gens comme ça.
Ça peut virer du fictif, éventuellement réel, parce que si les gens se prêtent au jeu, bah, finalement, bah, les parties en place, bah, vont dire merde. Ouais, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Si les gens commencent à voter pour moi, c'est pour que je laisse une mairie ouverte avec un siège vide.
Justement, en parlant de caméra, comment est-ce que vous avez pensé cet outil de travail particulier, le fait que vous cadriez seul ?
Ça s'est décidé assez rapidement, bah, pour des raisons à la fois économiques, d'autonomie d'équipe, de pouvoir travailler de manière assez flexible, ouais, d'être assez libre. Moi, j'avais cadré mon... Je suis pas du tout chef-op à la base. J'ai très peu de compétences techniques en images. Et j'avais cadré mon précédent film avec cette même caméra que je maîtrisais à peu près, même si j'ai fait quand même pas mal d'erreurs en colorimétrie. On s'en est aperçu à l'étalonnage après.
C'est quel type de caméra ?
C'était une caméra plutôt documentaire, voire même complètement conçue pour le documentaire et aussi le journalisme. C'est une FS5 Sony, une petite caméra assez compacte qui n'est pas un boîtier qui ressemble à un appareil photo non plus, qui est un boîtier qui ressemble à un boîtier de caméra. Donc ça rendait aussi la nature du tournage un poil plus claire, même si on pouvait être pris pour des journalistes. Et non, bah j'aime bien la place. Enfin, pour le moment, j'ai toujours cadré les films que j'ai faits. Et j'aime bien la place que ça me... J'aime bien cette place-là. J'aimerais bien aussi essayer de ne pas le faire, peut-être pour essayer d'autres choses, mais pour le moment, c'est une place que j'aime bien. Surtout dans le documentaire, quoi.
Est-ce que vous avez pensé une esthétique d'image particulière ?
Ça, je pense que ça a pas mal bougé. Disons qu'au début, j'avais plutôt l'envie d'être dans des plans plus larges, de plutôt être sur du fixe, un peu plus large, des discussions qui s'inscrivent vraiment dans une forme d'unité, de pas trop découper. En fait, très vite, je me suis rendu compte que ça serait pas possible du tout pour ce film-là. Et je pense que très souvent, en fait, la grammaire d'un documentaire se subit pour le meilleur son sujet et ce qu'on est en train de filmer, quoi. Donc parfois, on peut aller en contre et créer des effets, disons. Mais là, on était quand même dans des situations où on avait énormément de discussions, énormément de paroles, des prises extrêmement longues, beaucoup, beaucoup d'heures de rush. Et il y avait... Et en plus, il y a un truc qui était quand même qui faisait partie du film, qui était l'outil documentaire qu'est Laurent, et aussi un plan d'écoute très utile. Et les garçons aussi d'ailleurs. Ça faisait qu'il y avait en permanence trois écoutes possibles qui te permettaient de découper sans faire du découpage gratos, qui soit trop visible. Ça attire quand même assez vite le découpage, quoi. Et à travailler du coup vachement sur le champ contre champ, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont où je suis allé un peu en contre de, disons, les réflexes que j'aurais pu avoir de cadrage, quoi. Même si dans mon film précédent, je sais que j'avais eu... je pense qu'au final, a posteriori, je me dis qu'il y a une grande séquence de discussion dans le film et que c'est celle où j'ai clairement... Enfin, en fait, j'ai pris le plus de plaisir, surtout au montage, en fait. Et qui ressemblait un peu, qui était un peu dans ce coup-là où je tournais quand même beaucoup autour des sujets.
Vous parliez des champs contre champs, il y a des moments où on dirait qu'il y a deux caméras. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé volontairement au montage ?
Non, on souhaitait pas qu'il y ait l'impression qu'il y ait deux caméras, mais ça c'est lié au temps. C'est lié au temps des prises, et le fait que les prises soient très longues, ça nous permet énormément de marge au montage pour pouvoir avoir des champs contre champs qui peuvent rappeler ce qu'on peut voir dans la fiction, peut-être davantage que dans le documentaire, parce que en fait il y a beaucoup beaucoup, on avait beaucoup de matière, quoi, sur une discussion qui dure une heure. Il y a le temps d'avoir plein de petits rictus qui peuvent servir à avoir la réaction juste au montage, et donc c'est vraiment le temps qui a été très précieux pendant les prises pour pouvoir être juste dans le montage de ces séquences-là. Et puis Rémi aussi est quand même un monteur qui aime, je pense, beaucoup monter la parole et qui est très attentif à ce qui est dit. Il retranscrit tout. Donc il y a un gros travail de, de montage et de compréhension de ce que peuvent être chaque séquence. Parce que souvent, les séquences ont beaucoup d'usages possibles, encore une fois, de par la temporalité des prises et les nombreux sujets abordés à chaque prise. Et du coup, à chaque fois, il y avait, c'était un peu des couteaux suisses, les prises, quoi. Elles pouvaient être placées à plein d'endroits différents. Et ça, grâce à un travail de recherche très précis, ça nous a permis quand même de pouvoir vachement être souple après pour construire la structure du film, quoi. Et des séquences sur elles-mêmes aussi, qu'on a vachement retournées sur elles-mêmes. On pouvait vachement les retourner dans tous les sens, quoi.
Est-ce que vous avez monté au fur et à mesure de vos tournages successif, ou est-ce que vous l'avez fait à la toute fin du film ?
On l'a fait à la toute fin, même si on a passé pendant le confinement pas mal. C'était pas du montage, c'était plus un dérochage qui nous servait à réécrire. Mais pendant le confinement, on était confinés, Ferdinand, Milan et moi, ensemble, ce qui nous a permis de dérocher une bonne partie du film et de pouvoir réécrire. Réécrire tout ce qui était après, penser à notre fin, voir ce qui nous manquait en termes narratifs, plein de petites rustines narratives qui nous manquaient et qui ont été très utiles ensuite au montage. Donc voilà, donc c'est pas vraiment du montage, mais bon. Et après, dans le montage, on a tout fait d'une traite après le tournage.
Ouais. Combien vous avez eu d'heures de rush ?
Un peu moins de 200, je pourrais pas vous dire précisément, mais je pense 180 heures, quelque chose comme ça.
Est-ce que ça a été difficile de faire la curation de toute cette matière ?
Difficile, non, c'était long. Enfin, c'était un dérochage de 9 semaines, donc c'est conséquent, quoi. Mais ça a été une partie, assez rigoureuse du montage, mais qu'au final, j'ai trouvé plutôt sympathique, alors que j'en avais un peu peur quand même au début. Mais on a trouvé une bonne gymnastique avec Rémi, donc Rémi Langlade, le monteur, de dérochage, où Rémi, lui, transcrivait de manière beaucoup plus précise que moi et avait créé des marqueurs au papier, en lien avec sa timeline. Donc il y avait des marqueurs pour les choses qui nous paraissaient intéressantes et les changements de plan dans une même prise. Donc ce qui lui permettait ensuite de monter très, très rapidement. Et moi, je notais que les trucs qui m'intéressaient vraiment au papier. Et du coup, ça nous permettait très vite, ensuite pendant le montage, de pouvoir communiquer là-dessus. Donc en fait, cette petite gymnastique-là, bon, je ne vais pas vous dire que j'en avais pas marre au bout de 9 semaines de dérocher, mais ça permettait, enfin je vais trouver que c'était un moment... Un dérush assez plaisant quand même.
Et est-ce que vous êtes revenu au scénario au moment du montage où vous l'aviez vraiment totalement...
Forcément, on retrouve un peu des fondamentaux, donc pas tant des séquences qu'on aurait... parce qu'il y avait des séquences vraiment très, très baroques qu'on avait écrites qui n'existent pas du tout dans le film. Mais en termes de structure, on retrouve un peu des choses au fur et à mesure du montage qui peuvent ressembler à des structures qu'on avait à l'écriture. Surtout sur la fin, en fait, il y avait des choses de la fin qu'on avait discutées quand on avait fait un peu ce travail avec Thomas et les prods de réécriture du scénario. On avait un peu réfléchi à comment ça se terminait, parce que ça manquait quand même pas mal vu que c'était une variable très très incertaine. Mais on en avait besoin pour nos dossiers quand même d'avoir une fausse fin. Mais ce qui nous a aidé et je pense qu'on est retourné à cette idée de fin un peu au moment du confinement, justement. On s'est dit que Laurent, c'était plutôt une fin où Laurent n'avait pas réussi, et qu'est-ce qui restait de tout ça, dans quel état il était, donc cette sorte de dépression dans laquelle il est, et en même temps cette sorte de passage de relais aussi qu'il y a auprès d'autres protagonistes qui annoncent des choses qui se passeront après le film.
Vous avez parlé tout à l'heure de comment se fabrique un film. En termes d'économie de production, comment ce film a été fabriqué ?
En termes proprement financiers, on a eu plusieurs aides plutôt au développement. Donc
avant le tournage ?
Avant le tournage, on avait une partie des aides. On avait le CNAP qui nous ont aidés, donc c'est une aide aux sociétés de production. On avait une bourse aussi de l'Île-de-France, qui est la bourse Forte, qui est une bourse aux auteurs, mais du coup qu'on a réinjecté dans la production du film. On avait une aide au développement de la région Grand Est. Et ensuite, on a eu des aides, une aide un peu plus conséquente après en post-production, avec l'aide à la post-production de la région Île-de-France. Une aide du... Bon, il y avait une Sofika aussi qui a mis un peu de sous. Et donc ça a été un patchwork, quoi, de plein de petites aides. Enfin, petites aides. Plein d'aides. Pas d'aide à la production, quoi. On n'a pas eu d'aide à la production. Qui nous ont permis de financer le film. Et donc ça, forcément, ça joue aussi sur la production, plus en termes d'organisation du film. Nous, disons qu'on était... on avait quand même une équipe donc, très réduite à la technique. Il y avait Juliette qui était tout le temps là, et Lise qui était à la régie, qui était là sur une partie du tournage. Et Gérald Sanson qui a aidé avant le tournage un peu l'installation du local, et pour une séquence qui n'existe plus dans le film, mais d'une estrade qui avait été montée, donc un peu de... qui avait fait la déco, quoi. Et bon, et après, entre nous, entre Ferdinand, Milan, Laurent et moi, on avait des implications quand même très... on était assez... Le film avait une importance assez similaire, je pense, pour nous tous, donc on avait beaucoup de temps à lui donner, quoi. Et quand même, enfin, on avait beaucoup de temps, et ce qui était assez agréable, quoi, d'avoir un peu toute l'amplitude qu'on voulait, même si ça nous faisait faire aussi peut-être un peu des conneries parce qu'on tirait un peu trop sur la corde, je pense. Puis pardon Juliette et peut-être on a fait des journées un peu longues parfois.
Est-ce que cette logistique de tournage elle s'est doublée d'une logistique simplement de la campagne municipale qu'il fallait que vous meniez?
Tu veux répondre, surtout que c'était toi quand même beaucoup qui était
directeur de campagne.
Ouais, non, mais dans les faits, oui, tu étais quand même vachement à t'occuper de tous ces trucs, qui étaient un boulot énorme.
Mais alors, qu'est-ce que t'entends par logistique de campagne?
Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps? Est-ce que ça a été...
Ah bah oui, c'est un temps énorme, mais d'ailleurs c'est ça qui est assez intéressant. Je sais pas à quel point ça se voit en tant que spectateur, mais nous de l'intérieur, c'est ça qui est assez passionnant, c'est-à-dire de... Milan et moi, on est à l'écriture, mais on devient du coup conseiller de campagne, parce qu'il faut bien qu'à un moment on trouve un truc. Enfin, en fait, tout le tournage, c'était trouver des trucs.
Vous faisiez un travail de production aussi.
Oui, c'est ça. C'est un travail de production, et puis c'est un peu aussi pour ça qu'à la fin, il y a marqué avec l'aide à la mise en scène de Milan et Ferdinand, parce que c'est aussi tout le travail de ce film, c'est d'aller chercher une personne qui passe dans la rue, dire est-ce que tu peux revenir, mais de faire semblant que t'as pas vu la caméra, mais de... Enfin, et ça, c'était hyper passionnant, donc c'était aussi de...
Là, c'est un travail d'assistant mise en scène, en fait, dans une fiction.
Ouais, bah disons que les rôles étaient... Mmh. C'était des choses dont on a pas mal parlé à la fin du film, mais les rôles étaient pas évidents à définir, parce que c'était des rôles quand même un peu particuliers, et qu'on n'a pas tous des backgrounds dans le milieu du cinéma non plus, donc on a des connaissances qui viennent à des endroits différents, quoi. Enfin, moi, je pense qu'aucun de nous trois ne sait ce que c'est que d'être assistant réalisateur. Par contre, on a chacun d'autres capacités qu'on a mis au service du film, chacun. Mais ce qui était super bien, enfin, moi, je trouvais ça très agréable de pas avoir un peu la sorte de pression des usages de certains rôles, quoi. Oui. Ou très vite dans un film comme ça, en fait, avec un assistant réalisateur classique sur le tournage, je pense qu'il aurait été un peu déboussolé, et que ça aurait... Enfin, c'est des choses qui existent souvent sur des projets un peu étranges comme ça, où trouver sa place en tant que technicien, quand t'as une connaissance technique très précise de ton métier, ça peut être difficile de s'adapter à des nouvelles formes de travail, quoi.
Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, et ce qui était hyper agréable, comme le dit Thomas, mais c'était aussi que du coup, nous, comme on se posait pas ces questions-là, si tu veux, du coup, tu passes ta vie à essayer de trouver des espèces de petites rustines, enfin, tu vois, des petits trucs, quoi. Donc en fait, tu deviens directeur de campagne parce que d'un coup, on parle le soir et on se dit, mais attends, on a besoin d'un local. Si on veut inviter les gens au local, comment on fait? Ah bah tiens, on a qu'à aller tracter. Et puis comme ça fait une scène de tractage, mais en fait, c'est un tractage qui a uniquement au début pour vocation à inviter des gens pour nous rencontrer. Mais finalement, on filme la scène où on nous rencontre. Enfin, pendant le tournage, il y avait des moments, on me souvient, rares, mais où parfois on se disait, mais tiens, est-ce que là, il faudrait peut-être pas qu'on filme pour pouvoir bien expliquer aux gens? Et finalement, on se disait toujours, mais allez, on filme parce qu'il y a du monde. Parce que si on se rendait bien compte qu'on avait raté, si tu veux, C'était tout le truc du film aussi. C'est comme au début, on n'osait pas sortir la caméra. Bah, du coup, on avait aussi raté toutes les premières scènes de rencontre. Enfin, c'est bête, mais même les scènes où nous, on s'émerveille de découvrir la ville. Bon, émerveillement étant bien grand mot, mais mais si, quand même, un peu, quoi. Enfin, le truc, enfin, et puis la joie, etc., de rencontrer les gens. Ça, c'était assez passionnant. C'est nous, à la fin du film, quand on s'est posé les questions de générique, on voulait même mettre Milan à la dramaturgie, parce que c'est un terme qu'on utilisait vachement entre nous, parce que moi je viens plutôt du théâtre, et que Milan et moi on a bossé ensemble sur le truc de théâtre, puis nos producteurs qui ont finalement dit, mais en fait dans le milieu du cinéma ça veut pas dire grand chose, donc ça c'est une bataille sur laquelle on n'a pas insisté, mais bon c'est pour donner un exemple de choses, et je pense que ce film a été possible parce qu'on était un peu vierge de tous les usages du cinéma. De gros tournages de fiction, etc. Mais d'ailleurs, les fois où on a fait appel à des trucs un peu plus classiques, qui étaient des gens hyper talentueux à leurs endroits, c'est-à-dire Marie qui nous avait aidé à faire tout un plan de un planning de tournage, etc. Bah, le planning de tournage, au bout de deux jours, on s'est dit en fait, on va jamais pouvoir le tenir, parce que c'est un truc qui est là pour faire rentrer des scènes de fiction qu'en fait, on sait pertinemment qu'on va pas vraiment.
Oui, c'est, on s'est fait, en fait, on s'est fait, vu la nature du film un peu particulière, ça nous amenait aussi dans des questionnements de bon, bah, si y a ces scènes qu'on a écrites, on arrive en tournage, on les fait ou on les fait pas, mais si on les fait, du coup, ça implique toute l'infrastructure de la fiction. Et en fait, on s'est un peu pris au piège à certains moments sur l'organisation. On oubliait qu'on était dans une démarche quand même davantage documentaire. Ça rejoint un peu la première question. Et on a dû se dire bon bah on refuse ce piège-là parce que sinon on va vraiment se gaufrer quoi. Donc on a contourné comme on pouvait. Mais en même temps, ça a été vachement quand même utile d'avoir. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est bien d'avoir de l'avoir fait, d'avoir un peu trop fait, et peut-être quelque chose qui n'était pas complètement adapté au film qu'on avait vraiment envie de faire, parce que ça restait, mine de rien, il y avait quand même certains trucs de plan de travail, certaines séquences, enfin, ça nous a permis quand même de visualiser les séquences qu'on fantasmait, et de pouvoir s'y référer. Et du coup, même si on ne les appliquait pas telles quelles, qu'on ne les tournait pas, on pouvait un peu cocher des cases aussi, se dire « Ah mais ça, on a fait quelque chose qui, dans la narration, peut avoir à peu près le même usage. » Ça, c'était un travail que faisait beaucoup Milan, de retourner justement à l'écriture plus scénaristique, et à retourner à des versions qu'on avait écrites pour voir si on avait des équivalents, en fait, des équivalents de la narration qu'on avait. Et ça, Milan, beaucoup pendant le tournage, en fin de journée, remplissait un peu ce qu'on et voyait si ce qu'on avait fait était une sorte de travail de presque de script documentaire, quoi, qui est d'ailleurs, je pense, un poste intéressant à inventer au cinéma.
Oui, et puis d'ailleurs, il y avait aussi cette chose pour compléter un peu ce que tu viens de dire, mais je pense que tout ça, ça a aussi été possible parce qu'on avait ce texte. Enfin, je sais pas, moi, je parle un peu d'un point de vue théâtral, mais parce que Laurent est un comédien qui vient du théâtre aussi, c'est-à-dire. Demande à n'importe quel comédien, même à n'importe quelle personne qui écrit, certains improvisent toujours mieux quand tu sais qu'il y a un carcan, quand tu sais que t'as un cadre, quand tu sais que t'as un texte qui est préétabli et prédéfini. Et ça, c'était assez important, comme l'a dit Thomas. Enfin, je pense que le moment où on a commencé à voir que les scènes qu'on avait fantasmées, mais vraiment complètement fantasmées, se produisaient à peu près naturellement, de la même manière, là, c'est le moment aussi hyper jouissif et grisant. Et puis en même temps, il y a des fois où on a écrit des trucs, enfin là maintenant, on en rigole, mais on a fait des scènes de discours, on a monté un échafaudage devant la gare, on a ramené des gens sous la pluie.
Ça, on l'a tourné.
On l'a tourné. Laurent fait un discours qu'on avait hyper bien écrit et tout, mais enfin, qui finalement n'est pas dans le film, même le discours de Nietzsche. Maintenant, on en rigole, mais enfin, sur le moment...
c'était son petit nom, parce que c'est un peu une version... une version Zarathoustra. Son discours un peu empoulé... quand il n'a pas réussi à faire sa liste, où c'était un peu. Laurent aimait beaucoup citer Zarathoustra, et nous, on avait fait ce discours un peu emprunté du style. Et
on s'est tous planqués. Mais
et c'était terrible sur le moment. C'était terrible sur le moment, c'était hyper dur. Ouais. Quoi.
Milan et moi, on se planquait, Thomas nous faisait des signes, genre, mais rentrez dans le cadre, faites un truc, on était genre, oh non, 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 enfin vraiment, c'était une espèce de truc, on quittait le navire.
Ouais, c'est pas facile, mais pourtant, la séquence est devenue une séquence hyper importante.
Ouais.
Mais Rémi a dû me la faire pas mal avaler au montage. Je l'avais un peu prévenu, parce que j'étais un peu gêné, j'ai dit, attention, cette séquence, c'est compliqué. Et donc, lui, il l'a pris avec.
avec sagesse. Et à chaque fois, il me rappelait que non, ça va. Elle n'est pas aussi... quand tu n'étais pas sur place au moment où ce discours était dit, c'était un moment vivable. Et que, après, dramaturgiquement, elle a son importance, quoi. Donc, il a pas mal valorisé aussi ce moment où nous, on était très tentés, à cause de nos souvenirs de tournage, de la bazarder. Et puis, elle a été aussi sauvée, cette séquence, par Chabanne, qui fait la critique du discours de Laurent juste après, et qui rend la séquence précédente possible, je pense, dans le film.
Comment vous avez géré, vous, ce moment de bascule des signatures où, en fait, vous échouez à deux ou trois signatures près, quelque chose comme ça?
Disons que nous, on savait depuis un moment qu'on n'allait pas y arriver, mais on s'interdisait de le dire. Donc c'était un peu une règle du jeu qu'on avait pour pouvoir continuer justement à jouer avec la tension de « il nous faut une liste ». On s'interdisait vraiment de dire, et puis c'est ça qui crée des moments où, comme ce moment où Laurent s'énerve contre les gars qui étaient à la fois, enfin qui étaient très ancrés dans nos problématiques du moment, c'est qu'ils voyaient bien qu'en nous, on savait que ça n'allait pas le faire, et qu'en même temps, on était en train de dire si, on cherche des colistiers. Mais c'est parce que c'était notre règle du jeu de ces derniers jours, et jusqu'à la fin, on devait essayer de créer des situations. Et la séquence, par exemple, au terminus où il fait signer tout le monde, ça, c'était déjà cuit, mais il restait encore... Légalement, c'était encore possible. Mais physiquement, c'était complètement impossible de réunir une liste à ce moment-là. Et ça permettait aussi aux Revinois, qui savaient que c'était cuit, mais de s'inscrire quand même dans une temporalité qui était réelle, quoi. Et du coup, de jouer le jeu à fond, de vas-y, on signe. Donc ça a été, on a eu le temps de savoir qu'on n'arriverait très probablement pas à faire une liste. Et moi, je pense pour le meilleur en termes de film. Après, sur place, je sais pas, ça aurait été... Mais si, même sur place, je pense que ça aurait été très difficile après. Je pense que ça aurait été très compliqué avec les autres Vinois, avec les autres listes. Je pense que ça aurait vraiment pu créer des tensions, je pense, pas souhaitables du tout, quoi.
Ouais, il suffit de voir comment l'anti-bulletin, qui a été un truc hyper débattu entre nous trois, et puis même avec les quelques...
C'est-à-dire qu'avant le premier tour, vous proposez un bulletin qui va être un bulletin nul,
oui,
mais qui est au nom de Laurent Papot, qui n'a pas pu... recueillir les suffrages, enfin qui n'a pas pu recueillir assez de colistiers pour se présenter officiellement.
C'est ça, et en fait c'était un moment qui était hyper passionnant, et on, intellectuellement, éthiquement parlant, c'était des grosses discussions entre nous, parce qu'on était un peu mis face aux limites de notre dispositif, à savoir c'est un dispositif qui veut interférer avec le réel, donc on avait un peu interféré avec, mais qui, du coup, il ne fait pas sa liste, il ne peut pas se présenter, donc potentiellement, théoriquement, le film s'arrête là, mais on est quand même venu pour essayer quand même de jeter un pavé dans la mare, donc qu'est-ce qu'on peut faire sans que ce soit vexant. Et puis il y avait aussi cette chose de qu'on se répétait beaucoup entre nous, c'est-à-dire que Laurent Papot était autre chose que Laurent Papot. Laurent Papot, de la même manière que Laurent Papot est un... Je fais un peu du Papot, là. De la même manière que Laurent Papot est Laurent Papot, mais est aussi l'acteur, mais est aussi le personnage Laurent Papot, du coup, Laurent Papot devient potentiellement une espèce de représentation, enfin, autre chose que lui-même, quoi, de représentation d'une possibilité, d'une autre manière, d'un autre mode de gouvernementalité, ou d'une autre manière. Enfin, c'était un peu ça qu'on essayait de faire.
Donc c'est une forme d'utopie politique, Laurent Papot.
Complètement. Non, mais complètement. Et c'était ça qui était hyper passionnant. Et donc, quand on fait cet anti-bulletin, là, c'est le moment où tous les gens des autres listes, qui jusqu'ici étaient plutôt assez tolérants, nous font...
Vous avez pu filmer des réunions publiques avec le maire, etc.
Alors ça, de toute façon, puis c'est bien de le rappeler, mais de la même manière qu'on a le droit de filmer la police, on a le droit de filmer les conseils municipaux, en France, il y a quand même des lois qui protègent le fait, ce qui est bien normal, c'est-à-dire que ce qui se passe avec de l'argent public, dans la sphère publique, normalement, tout n'importe qui a le droit de le filmer, après, on a plus ou moins le droit de diffuser, mais on a le droit de filmer les conseils municipaux tant que ça trouble pas l'ordre, enfin bon, etc. Mais oui, les réunions des candidats, etc., on a pu le filmer. Il y a des candidats qui n'ont pas voulu qu'on filme même leur réunion. La candidate de gauche n'a pas voulu, et puis on a respecté, évidemment, on n'est pas allé filmer.
La candidate RN non plus, pas. Enfin si, elle a accepté qu'on filme 10
15 minutes.
Ouais, 10-15 minutes. On y est allé, Mais c'est pas dans le film.
Quelle est la plus belle erreur que vous ayez faite sur ce tournage ?
Embaucher Laurent Papeau.
C'était une erreur de casting ?
Non.
Non.
Ça n'a jamais été une erreur.
Non, la plus belle erreur...
Je crois qu'on peut pas la dire parce que c'est une vraie erreur. Je pense à un truc... Je pense qu'il y a un moment où on s'est dit quand même on fait une erreur, c'est le moment où en fait on s'est rendu compte qu'on prenait la campagne un peu à cœur et qu'on commençait à oublier qu'on était là pour faire un film. Et je parle... Et ça, pour le coup, c'est plutôt Thomas qui nous ramenait dans le truc de les gars, on fait un film, et que Laurent Milan et moi, on... aussi parce qu'il commençait à y avoir des espèces de mini-frustrations, on voyait bien qu'on ferait pas la liste, qu'on savait pas comment... Et qu'on commençait un petit peu... Et qu'on commençait du coup à, je sais pas, avoir le seum, quoi. Et donc du coup, on sentait qu'on commençait un peu à sortir de notre rôle de cinéaste un peu documentaire. C'est-à-dire on perdait la distance, quoi. On perdait la distance juste et nécessaire quand on fait un film. Et qu'on, enfin bon, ouais, nous sommes des perdants de l'élection, quoi. Donc on avait envie de mettre un coup de pied. Et c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup parlé de cet anti-bulletin. Parce que Thomas disait, mais est-ce qu'on est sûr qu'on... que ça reste dans le cadre du film, qu'est-ce que ça nous apporte d'un point de vue cinématographique. Bon là, finalement, c'est très bien dans le film, mais même après au montage, c'est un des trucs qu'on a le plus discuté jusqu'au bout, cette chose de l'anti-bulletin, et quand on montrait les premières versions, c'était une des plus grosses critiques. Discuté, hein, ouais. Les gens disaient, moi j'adore le... Enfin, il y a des gens, beaucoup de gens disaient, moi j'adore le film, mais au moment de l'anti-bulletin, je trouve que... Enfin, je cautionne pas ça, je comprends plus, qui étaient des critiques qu'on entendait complètement.
Dans le sens où vous êtes allé trop loin.
Ouais.
Ouais.
Vous êtes allé trop loin, et puis on voit un peu que vous avez les boules de pas avoir fait la liste, donc on comprend pas ce geste, donc on comprend pas pourquoi vous auriez envie de montrer ça dans votre film. Et c'était hyper passionnant, mais donc je pense que c'est peut-être ça, moi, l'erreur, je trouve, c'est le moment où on a perdu un peu la distance juste et nécessaire.
Et est-ce que c'est un regret ?
Pas du tout. J'ai aucun regret sur ce film. Ah non, mais vraiment, j'ai aucun regret sur ce film. J'avais même dit non à d'autres tafs au début quand on savait pas qu'on allait être payé et tout. Moi, on me proposait des trucs en théâtre payés, etc. Mais j'ai jamais eu aucun regret de faire ce film. Enfin, c'était vraiment, on a pu un peu s'engueuler entre amis. Enfin, c'était pas forcément facile, puisque quand on bossait avec des amis, il y a aussi des questions d'ego, etc. Mais non, je pense que c'était une expérience qui valait absolument tous les 10 kilos que j'ai pris à manger du saucisson, puisque en campagne on grossit. Je comprends pourquoi ils sont tous gros. Non, aucun regret. Bon, à part peut-être celui-là.
Pour en revenir au montage, est-ce que vous avez fait le choix d'un montage assez rythmé, avec des plans assez courts, malgré que le film soit aussi assez long, puisqu'il approche des 2 heures?
C'est Rémi a amené beaucoup d'envie de rythmer le film, et de l'accélérer, pas seulement dans la question de à l'intérieur d'une séquence, la durée des plans, etc., mais de globalement l'accélérer, donc d'accélérer la narration qui était celle du tournage, et qui était on arrive petit à petit, d'abord en coulisses, on est en train de discuter, ça prend son temps, ça s'installe, etc., qui était le montage de Notre Ours, qui est une version que j'aime bien du film. Je pense qu'il y a 2 versions que j'aime vraiment bien du film, qui est Notre Ours, qui durait 7 heures.
7 heures, c'était une mini-série en fait.
Ouais, c'est ça. Mais ça nous a posé plein de questions, parce qu'il y avait vraiment des choses que je trouvais vraiment intéressantes dans ce format-là, et qui étaient déjà assez montées. Enfin, je veux dire, on avait déjà des séquences qui ont bougé, mais qui ressemblaient quand même à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc mes 2 versions préférées, c'était celle-là et la version finale, parce qu'en fait après c'était aller vers la version finale, quoi. Donc c'était vraiment un autre film, celui-là. C'était complètement un autre film, dans une durée très très longue, et avec du coup beaucoup plus de prise de temps, beaucoup plus de lenteur.
Dans les plans, dans les séquences.
Ouais, et des Laurent Papeau très différents aussi, parce que là on a une sorte d'unicité de Laurent Papeau, mais il a quand même plusieurs facettes. Et il y a Laurent Papeau beaucoup plus drôle qui existe aussi dans les rushs.
Burlesque ?
Ouais, un peu. Et puis, Laurent est quelqu'un qui parle beaucoup et qui pense en parlant, et il aime beaucoup jouer avec ça. Donc il y a plein de moments comme ça où on le voit penser, on le voit en train d'être dans une sorte de réflexion poético-politique. Et il y avait beaucoup cette part-là de lui au tournage qu'on appréciait, on aimait vraiment ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vachement mis de côté. On a gardé un Laurent qui était plus proche, en fait, de l'idée initiale, je pense, aussi du film, qui était un Laurent un peu plus réceptacle de la parole, donc qui est force d'action aussi, mais qui soit plus dans cette sorte d'outil, quoi, qui permet d'accéder à la parole des uns et des autres.
Et c'est là où votre film documente aussi cette ville-là, une certaine France.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et ce travail de recueil de la parole, donc c'est quelque chose que vous avez précisé au montage de l'ours jusqu'à la version finale.
Ouais, 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 bah c'était la place, c'était définir la place qu'on voulait donner à ce qui est de l'ordre du témoignage d'une part, mais en même temps c'est pas vraiment un film de témoignage, il y en a relativement peu, à part, je pense à Alain Houzet, ancien ouvrier chez Electrolux qu'on voit au début, chez Fred, qui lui a une parole qui est un usage de témoignage dans le film. Mais en fait, à part lui, s'il y a Malik aussi, qui nous parle de comment était Orzy à l'époque, de... Mais sinon, c'est globalement peu de témoignages, mais une parole qui est quand même documentaire. Donc, il n'y a pas que le témoignage dans la parole documentaire, mais je me perds complètement. Vas-y.
Non, mais pour rajouter, ça c'était présent dès le début. La volonté quand même de recueillir la parole des gens. Enfin, et en ça, ça rejoint aussi les questions de fiction, documentaire. Ça c'était quand même quelque chose dès le début. Puis à un moment, on était très perdu dans l'écriture. Je m'en souviens encore. On était dans un. On allait boire une bière dans un café du 20e. C'était les moments un peu d'écriture. On était un peu déprimés, parce qu'en plus, c'est le moment où on commençait un peu à avoir des gros refus de gros financements, donc on se disait oula. Et où toi t'étais revenu en disant mais faut pas oublier qu'il y a quand même ça qui est en jeu aussi dans ce film, et que ça avait recadré aussi un petit peu le propos, cette chose.
Et votre dispositif, c'est notre manière aussi d'y accéder.
Ouais, complètement.
Complètement, ouais. Ça, je pense que c'est vraiment un truc très initial du film, et là, même si c'est des films de facture extrêmement différentes, mais le film de Kramer a vraiment en ça et davantage que nous, lui pour le coup c'est vraiment un outil à témoignage et c'est davantage un outil documentaire son doc, mais vu que c'était vraiment une des références qui a nourri vraiment le tout début de l'essence du film, même si ensuite ça s'en est beaucoup éloigné, ça nous permettait aussi de se rappeler cette intention première, quoi. Et l'effet, cette sorte d'outil performatif qu'est le comédien dans ce contexte-là, quoi.
Est-ce que dans le travail de post-production, notamment de l'image, de l'étalonnage, est-ce que vous avez pensé l'image d'une certaine façon? Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait des caractéristiques particulières. Les couleurs sont assez désaturées, le film est assez peu contrasté, tout semble un peu sous-exposé, ce qui donne des fois des aspects un peu sombres, lugubres. Est-ce que ça a été un choix conscient de votre part?
Je pense que c'est plusieurs choses. Il y a déjà qu'il faisait assez sombre.
C'est un peu de lumière.
Deuxièmement, mes lacunes de cadreur et de chef-op encore plus. Mais après, forcément, on en joue. Une fois que les choses sont là, ça devient des intentions. Mais non, après, bon, c'était globalement, on a filmé quand même dans des contextes assez sombres, ouais. Assez sombres.
Il y a beaucoup d'intérieur.
Beaucoup d'intérieur. Je pense une de mes erreurs de cadreur, par exemple, c'était une erreur d'optique. Où je pense que j'ai pas pris la meilleure optique c'est une optique qui est bien par ailleurs, mais qui ouvre pas beaucoup. Et si c'était à refaire, je pense que je m'équiperais d'une autre optique ou de plusieurs optiques, je sais pas. Donc à partir du moment où j'ai créé cette tambouille, ensuite avec Aurore, l'étalonneuse du film, on a travaillé à partir de ça, quoi, pour essayer de ramener de la couleur aux endroits où on pouvait en ramener, d'enlever ce bleu constant que j'avais foutu partout. j'avais schtroumpfé revin, et on a un peu des schtroumpfé revin à l'étalo. Et puis il y a eu un vrai choix aussi après de vraiment recontraster, bon, ce qui était naturellement le cas parce qu'on passait à l'été après le confinement, mais la dernière partie, on a vraiment poussé beaucoup plus que ce qu'on aurait fait naturellement, surtout vu qu'on étalonne chronologiquement, on aurait eu tendance à être peut-être un peu influencé dans les premiers passages par tout le début du film, et du coup faire une fin un peu palote. Et on a vraiment décidé à l'étalo que la fin devait être vraiment contrastante, quoi, par rapport à toute la première partie du film, quoi.
Est-ce que vous avez fait des projections à Revin du film?
C'est le 23 janvier, donc 3 jours avant la sortie nationale.
Il n'y a pas encore eu de projection.
Il n'y a pas eu de projection publique. On l'a montré à certaines personnes proches du film. Donc il y a une partie des protagonistes et amis qui sont venus à la projection cannoise.
Parce que le film a été montré en 2021 à l'Acide, en juillet.
C'est ça, exactement. Et donc on leur avait montré avant, on était allé à Revin pour leur montrer avant, parce qu'on voulait le découvrir entre nous, avant de le découvrir dans les circonstances particulières de Cannes. Et ensuite, on l'a remontré donc à Revin aussi à une partie des Gilets jaunes. Donc voilà, à qui on voulait le montrer à l'avance. Et le reste de la ville, ceux qui viendront à la projection, le découvriront le 23. Et ensuite, dans les cinémas ardennais qui voudront bien le prendre.
Quel est l'avenir du film pour vous? Il y a cette sortie le 26?
Ouais.
26 janvier.
Il y a sortie nationale le 26 janvier. Donc on ne sait pas encore exactement aujourd'hui combien de copies on aura, mais on espère. A priori, ça va être une... Enfin, ça, c'est aussi le travail de l'Acide qui est important là-dessus. Enfin, le travail conjoint de l'Acide et des distributeurs de réseau et de l'Acide qui, a priori, c'est plutôt une stratégie d'exploitation sur un temps un peu long. Donc, en faisant pas une quantité énorme de... Enfin, en misant pas tout sur la sortie nationale, quoi, en espaçant les sorties. Donc, voilà. Et puis donc on va accompagner le film beaucoup là ces prochains mois, donc dans beaucoup de rencontres avec l'équipe, avec nous, avec des gens qu'on va essayer de faire venir aussi. On va essayer de faire des projections croisées aussi avec d'autres films. Je m'avance pas maintenant parce que je sais pas si ça aura lieu, mais ça on fera pas mal au Saint-André-des-Arts à Paris normalement.
Et quand sortira cette version de 7 heures?
quand il y aura une version VHS. Il y aura deux VHS. Ouais, et puis c'est quand même beaucoup de boulot de montage son, ça va coûter cher en montage son et
avis aux mécènes. Eh bien, merci à vous, Ferdinand et Thomas, d'avoir participé à ce nouveau entretien de Négatif.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pourrez découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo du film, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux. À bientôt.